What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Get easy.
It's
been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filomena. Proprio non mi ricordate.
Mais non, j'ai pas de fils.
Bonjour à toutes et à tous les cinéphiles du vendredi, vous qui aimez vibrer au cinéma en vous abandonnant à d'autres vies que la vôtre. Bonjour et bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et aujourd'hui, on ausculte en compagnie de Julien. Salut Julien.
Bonjour.
Et en compagnie d'Olivier. Salut Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et toujours Sylvain. Salut Sylvain.
Salut.
Vous êtes là pour discuter de pas mal de films, Le Jardin Zen, La Pivoleuse, Slocum et moi. On reparlera également du festival Un Livre, Un Film, et puis on dira un mot de Jouer avec le Feu et A Perfect Unknown pour la troisième fois, puisque c'est...
A
Complete Unknown, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça, mais sans doute Imparfait Inconnu. A Complete Unknown, merci. On commence tout de suite avec un film qui était fait pour toi, Olivier, ouais. En tout cas sur le papier, oui. Toi qui as animé sur cette radio Les Jardins Suspendus, où tu as de nombreuses années partagé des haïkus.
Ouais, c'est vrai.
苦しいことも
Et oui, en entendant la musique, on sent qu'il va se passer quelque chose.
Ouais. C'est bien original d'ailleurs. Ouais.
Ouais. Le Jardin Zen de Naoko Ogigami avec Mariko Tsutsui, notamment.
Ouais. Excellente actrice. C'est un film qui est marquant, incontestablement marquant, d'autant plus qu'en y allant et en glanant des informations à droite à gauche, on rentre dans la salle sans même savoir exactement ce qu'on va voir, une comédie dramatique, quelque chose de plus tragique, on ne sait pas bien. En sortant, on ne sait toujours pas tellement plus d'ailleurs, mais c'est un film qui est marquant donc par son originalité ici, en appartenance de genre même problématique je dirais, et puis par sa qualité.
Transgenre.
Qualité de montage, de photographie, scénario aussi, avec des interruptions qui laissent place à des plans, à des séquences évoquant la folie, peut-être pas. C'est vraiment très particulier et je remarque en lisant la critique autour de ce film que les critiques sont eux aussi assez perdus. La réalisatrice aurait fait ce film pour moquer la zénitude des Japonais. Ça, c'est une vision purement occidentale. Le bouddhisme est une religion au Japon. Et il y a des Japonais qui sont religieux, d'autres qui le sont pas. Il y a pas de zénitude japonaise. C'est absurde. Au contraire, c'est la société aussi de la concurrence financière, capitaliste, etc. C'est la société de tous les contrastes, enfin, comme toutes les sociétés, du reste. Hein. On lit que... alors ça a peut-être été piqué dans Allociné, ça. On cite Baudelaire, luxe, calme et volupté, pour évoquer l'ambiance qui régnerait dans le début du film. Alors j'ai envie de dire déjà, laissez Baudelaire tranquille, hein, c'est comme Madeleine et la Proust, non Proust et sa Madeleine, voilà, il faut laisser tomber. Luxe, calme et volupté, bon la femme elle est caissière dans un supermarché.
Ah, voilà, c'est ce que j'allais te dire, mais de quoi parle ce film?
Oui, alors, une caissière dans un supermarché... vit avec son mari et son fils, qui est un grand garçon. Et un soir, le mari disparaît. quelques années plus tard, il revient avec un cancer. Voilà, on n'en dit pas plus. Le fils, lui, est parti faire ses études à Kyushu et revient lui aussi, mais pas avec un cancer, avec une compagne que la maman a du mal à accepter du reste. Voilà. Donc ça, vous voyez, bon, le pitch ou même le synopsis, quelque part, ici, est assez classique. Le film ne l'est pas du tout. Il laisse un peu interrogatif parce que c'est un film qui parle de spiritualité, mais en nous laissant entièrement libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. C'est vrai qu'il y est question de la secte de l'eau verte.
C'est ce que j'allais te dire.
Bon, évidemment, où la spiritualité est ridiculisée, mais à côté de ça, on voit des gens pratiquer le bouddhisme classique, pas zen, le bouddhisme et le culte des ancêtres, ou le shinto. Donc, on nous fait pas de leçons.
Non, ça a l'air plus d'ailleurs de la superstition, parce que là, c'est vraiment très, très... Enfin, juste dans la bande-annonce, avec son petit flacon d'eau, pour que ça aille.
Oui, alors, c'est-à-dire qu'on explore le religieux dans ce qu'il peut avoir de plus absurde dans ses gestes ou dans ses paroles, mais on sent bien que la réalisatrice n'essaye même pas de réduire la spiritualité à cette espèce de dérive ridicule, et puis pas honnête financièrement, etc. Vous voyez, bon. Donc, le spectateur reste libre, de même qu'il est libre de considérer, par exemple, la société de consommation comme une forme d'aliénation supplémentaire à côté de ses aliénations religieuses ou sectaires. On a vraiment cette liberté. On a aussi la liberté, plan psychologique, d'interpréter le personnage féminin principal, de l'interpréter comme une femme valeureuse qui cherche sa place dans l'existence, ou d'y voir une sorte d'hystérique assez faible moralement, enfin, bon, etc. Donc on est dans cette espèce de vision d'ensemble de la société japonaise, et puis de cette famille, et puis de son jardin sec, hein, jardin zen si on veut. C'est marrant, elle a le culte de l'eau et elle fabrique un jardin sec. C'est un peu dans ce paradoxe qu'on est toujours. Moi, plutôt que d'essayer de caler le film avec une intention particulière ou dans un genre particulier, j'avais envie de le rapprocher du koan. Le koan, ce sont ces courts textes que les maîtres zen proposent à leurs disciples pour les mettre dans une situation d'indécision et de perte de repère total. J'ai été en chercher un ou deux là pour vous donner l'idée de ce que c'est qu'un koan. Hein, deux mains applaudissent et il y a un bruit. Quel est le son d'une main? Alors là, vous dites, ouais. Et ça, métaphysiquement, c'est très intéressant. Ça, il y a toute une question sur la pénétrabilité des choses, la matière, l'esprit, etc. Ou bien un moine demande donc au mont de la grotte, c'est Dongshang, c'est un maître zen, comment c'est la bouddhéité? Et Dongshang répondit, trois livres de chambre. Voilà. Donc le film, c'est ça. Ça vous met devant des situations énigmatiques, incompréhensibles. Mais cette situation dans laquelle se trouve votre conscience vous aide à avancer, à comprendre un certain nombre de choses comme la politique, la spiritualité, la psychologie, les rapports entre époux, entre parents et enfants, etc. Mmh. Et de ce point de vue-là, c'est très, 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 très riche. Et s'il fallait dire encore une chose pour que les gens aillent le voir, parce que franchement, il faut, bon, à part le jeu des acteurs... On parlait à l'instant de cinéma étranger. Nous reconnaissons les acteurs américains, les acteurs anglais, les acteurs japonais qui semblent presque inspirés par le théâtre no. Des fois, ils font passer des émotions intenses avec une espèce de retenue comme ça qui est assez extraordinaire. Là, les acteurs principaux sont là-dedans et c'est bouleversant, certaines fois bouleversant. Le mari en particulier. Et donc, pour donner encore envie, la scène finale, moi j'y ai jamais vu ça. C'est quelque chose, tant au plan esthétique qu'au plan de la signification, c'est quelque chose d'incroyable. J'en ai parlé avec des gens qui auraient vu le film avec moi, et effectivement, je suis pas le seul à avoir eu cette impression folle.
Le Jardin Zen de Naoko Ogigami. Ben merci, tu nous as donné vraiment envie d'aller le voir. Oui, avec l'actrice, notamment Mariko, ouais. Tout de suite. Merci, c'est à voir au Navire, à Aubenas, et aussi, pour ceux qui sont plus du côté du Rhône, au Templier à Montélimar. On passe à un autre film, une autre forme de fable sociale peut-être, mais aux accents un peu plus méridionaux.
Oh, tiens.
Bonjour, papa.
Tu veux prendre l'apéritif ?
J'ai l'habitude de m'occuper de ses affaires. Est-ce que vous pouvez me dire pour qui il loue ce piano ?
Oui, bien sûr.
Madame Jourdan ?
C'est moi.
Ce que je veux, c'est savoir pourquoi mon père loue ce piano pour vous.
T'as recommencé comme avant ? C'est pour le petit.
Qu'est-ce que tu lui donnes, à part le piano ?
Je vous demande de pas porter plainte. On remboursera tout à votre père.
Cette femme, faut l'empêcher de nuire. Peut-être qu'elle fait ça chez d'autres vieux.
Tu mets plus les pieds chez Moreau. Et toi, remplacer, raconte n'importe quoi.
J'aimerais que tu arrêtes de travailler chez les hommes qui sont seuls.
C'est vraiment bête ce que tu dis. Ça me touche beaucoup.
Et votre petit-fils, le piano, il progresse ?
Oui, oui, oui. J'y prends des cours particuliers à Avenue du Prado.
Il est jeune. Il a le temps.
La pivoleuse de Robert Guédiguian. Son dernier film, donc toujours avec Ariane Ascari, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Mélan qu'on a entendu. Alors, j'ai hésité pour la bande-annonce, mais dans les bandes-annonces, maintenant, on met tout, en fait, on met tout le film. Donc, il y a la deuxième partie de la bande-annonce. J'avais l'impression que ça déflorait un petit peu, mais c'est peut-être... on y est avec cette aide à domicile qui a déjà commis son forfait.
Oui, on y est, et puis, on va dire, et puis c'est pas très grave, en fait, que ça raconte, parce que le cinéma de Guédiguian, c'est pas un cinéma, on va dire, de scénario labyrinthique où on raconte la fin, enfin voilà, c'est pas du tout son propos. Moi j'ai envie de dire que le cinéma de Guédiguian c'est à la fois un cinéma social et c'est un cinéma aussi lié à Marseille, enfin à un lieu, à un géographique. C'est quelqu'un qui fait, on va dire, au fil du temps, qui raconte cette ville-là, son évolution, l'évolution sociale de la société aussi, voilà, c'est un témoin assez intéressant. Il n'était pas revenu tourner dans l'Estaque, qui est le quartier de Marseille en fait, dont il est issu et où il a commencé à filmer en fait tout au début. Depuis les neiges du Kilimandjaro, qui datent de 2011, je dirais, oui. 2010 peut-être, je ne sais plus, en tout cas, il y a longtemps, et dans ce quartier-là en tout cas, et on va retrouver, on va dire, les ingrédients qui font son cinéma, c'est à la fois Marseille avec sa culture, son quotidien, il y a presque quelque chose un peu de documentaire en fait dans ce qu'il propose, parce qu'il filme beaucoup les rues, les habitats, les habitations où les gens vivent, voilà, avec une espèce de réalisme qui est quand même hyper intéressant. Et à la fois, il filme des gens qu'on voit peu au cinéma, en tout cas filmés comme ça, dans leur quotidien, c'est-à-dire des milieux sociaux qui sont à la fois pauvres. Après, il n'y a pas que des pauvres dans le film. Du coup, c'est le sujet un peu, justement, c'est cette confrontation-là. Et donc, du coup, c'est la difficulté de vivre, en fait, et l'état où se trouve la société actuelle, et Marseille en particulier. Mmh. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant. Et ça reste quand même des films avec quand même de l'humour, parce que l'humour reste présent malgré les difficultés chez ces pauvres champs, et à Marseille en particulier, où il y a quand même une faconde et une... Voilà. Donc du coup, c'est le film est intéressant pour ça. Moi, je dirais aller voir un film de Guédiguian, c'est un peu comme chez soi, arriver chez soi et mettre ses pieds dans des charentaises. Il y a un côté, elles sont très confortables. on sait à quoi on s'attend.
Parfois, elles sont un peu, c'est une pointure en dessous.
Voilà. Mais là, celles-là sont peut-être un peu trop grandes aussi des fois. Voilà, c'est pas exactement. Mais en tout cas, on souffre pas, rarement. Et après, on reste, voilà, et on retrouve en fait les acteurs auxquels on est attaché. Hein, il y a Ariane Ascari, etc. Et il y a, alors c'est Jacques Boudet, je crois, qui est décédé cette année. Donc c'est le dernier rôle qu'il a, alors qu'il joue un des maris. Alors j'ai pas pitché le film, mais en fait c'est une femme qui va aider les, enfin qui est une aide à domicile, voilà. Et qui je sais pas si on, je raconte pas, mais en tout cas, il est en interaction avec ces gens-là. Et Jacques Boudet joue une des personnes. Et effectivement, on l'a entendu dans la bande-annonce. Hein, voilà, elle veut absolument que son fils, justement, quitte sa condition sociale. C'est-à-dire, son petit-fils, pardon, arrive, parce que eux, ils sont tous pauvres. Sa fille, voilà, tout le monde est dans des milieux très populaires. Voilà, eux, ils travaillent plus, ils trouvent plus de travail. Ils ont, voilà, ils ont 55 ans, 60 ans. Ils sont pas à la retraite encore, mais parce qu'ils ont jamais cotisé. Et vraiment, parce qu'ils ont fait un petit peu les marlous, un petit peu là, voilà. Mais ils ont jamais réussi à travailler au noir beaucoup, voilà. Et la fille est mariée, son mari est chauffeur routier, elle s'occupe du fils, etc.
Et est-ce qu'il arrive quand même à capter l'évolution? Parce que tu dis, voilà, c'est comme revenir chez soi, c'est son univers de l'Estac, etc., les mêmes personnages. Ouais. Est-ce qu'on sent quand même dans ce film que c'est un film de 2025?
Ah bah oui, tout à fait. Ouais. C'est un film de 2025 parce que les problématiques sont plus les mêmes. Au début, en fait, t'avais quand même des milieux qui étaient en grève. Il y avait la révolution, quoi, pour pouvoir changer le monde, etc.
Maintenant,
depuis quelques années, quand même, de quelques films, on voit bien que la désillusion est là. C'est-à-dire qu'en fait, le grand capital a gagné. En gros, donc du coup, le sujet, c'est pas le renverser ou autre, c'est comment on vivre avec, quoi.
L'espérance a un peu remplacé l'espoir, voilà. On va dire. Des choses comme ça.
Et donc du coup, il est le film est là, je vous raconte pas la fin, mais du coup, c'est même si c'est pas une fin négative, c'est pas
les jours qui chantent,
c'est pas on va dire la l'égalité ou enfin voilà pour tous qui gagnent. On a toujours besoin d'un plus riche, quoi, pour survivre, en fait. Ça serait un peu ça la morale, ce qui est un peu mais enfin voilà, mais c'est que voilà, pour les gens qui ont pas d'argent, voilà, c'est comment
Dylan, dans une de ses chansons, il dit il faut toujours quelqu'un à servir.
Ça pose cette question là, comment on fait, nous, en particulier avec des enfants, etc., avec les, tu vois, tout le monde a envie de rêver, tout le monde a envie de, je veux dire, en plus maintenant on est abreuvé d'informations, tout le monde a envie de voilà, tout le monde a envie de manger des huîtres, tout le monde a envie de que leur enfant fasse des concertos de piano et devienne réussir le concours et tout ça, etc. Sauf que il y en a qui ont les moyens de payer les cours de piano et d'autres non.
La Pie voleuse de Robert Guédiguian, c'est à voir au Navire et puis ce sera bientôt à Privas. Allez, on parle encore d'autres liens de filiation avec le prochain film.
Le voyage de mon père, je vais essayer de vous le dessiner. J'avais 10 ans quand il s'est lancé dans cette aventure. Je n'avais pas de souvenir de la guerre. Je devais être trop jeune.
C'est pas qu'à dessiner ça. Demande-lui. Tu peux lui parler, tu sais.
Qu'est-ce qu'ils font?
Ils vont construire un bateau.
Soukoum!
Soukoum? Pourquoi on l'appelle comme ça?
Ce n'était pas n'importe quel bateau que mon père était en train de construire. C'était celui de Slocum. Avec ce bateau, Slocum avait fait le premier tour du monde à la voile, en solitaire.
Maintenant, plus à gauche. Oui, à droite pour toi, évidemment.
Quel empoté.
Quand il était jeune, ton père rêvait déjà d'un voilier. Peut-être même aussi de faire le tour du monde.
Mais les îles Canaries et les Marquises.
Slocum et moi de Jean-François Laguioni, qui était, le film était aux Rencontres des Cinémas d'Europe. Alors moi j'avais vu, c'est une animation en 2D et j'ai eu l'impression que la bande son était aussi en 2D.
Un peu, chose.
Ouais.
Oui, oui. Mais ça donne, ça rend compte de l'atmosphère globale du film, qui est toute à la légèreté, à la distinction des gens et des choses. Tout est un petit peu en suspension. Le père dont les rapports avec le fils sont éthérés, c'est le moins qu'on puisse dire, le couple dont on sent qu'il est, c'est un couple avec un enfant unique qui dessine, voilà, et puis le mari il, dans le jardin il construit un bateau, mais il construit un vrai bateau, 11 mètres, voilà, 18 tonnes, bon. Et donc c'est un peu à l'image du projet du père. On se demande pourquoi ce monsieur construit, mais très techniquement, c'est pas sa braque, hein, c'est tout est au millimètre, tout est etc. Visiblement, il sait naviguer, enfin etc. Mais évidemment, c'est un projet fou, puisque à un moment donné, il faut demander aux voisins si on peut abattre le mur provisoirement pour déplacer le bateau. Enfin, je sais pas, bon, c'est de la, ça paraît de l'aquarelle, hein, et la musique aussi, comme tu disais, elle est un peu 2D, elle est un peu légère, comme ça, mélodique, mais jolie. Donc c'est un film qui touche, mais qui touche par sa délicatesse, on va dire. Et puis, qui descend assez profondément à cause du sujet. Parce qu'effectivement, on est face à une vie de cet homme qui est en compagnie de sa femme, qui est complètement engagé à ses côtés, construit un bateau, et on est à l'orée de la vie du jeune garçon, qui lui aussi va devoir trouver une vocation. Hein. Il y a l'oncle qui apparaît à un moment donné, et qui ajoute une dimension supplémentaire, mais toujours avec ce côté un peu énigmatique. Et effectivement, le père ne construit pas n'importe quel bateau, c'est dit dans la bande-annonce. Il construit une réplique du bateau de Joshua Slocum, qui a fait, cet homme, à bord de son sloop, le Spray, il a fait le premier tour du monde à la voile en solitaire, de 1895 à 1898, 46 000 kilomètres. Et qui a rendu compte de son voyage, superbe évidemment, dans Sailing Alone Around the World, en 1899. Ça a été traduit en français, je crois pas que ça soit encore disponible, je l'ai pas trouvé. Et donc c'est un monsieur, Joshua Slocum, qui est né en 1844, et qui est mort en 1909, disparu dans le Triangle des Bermudes. Donc c'est très particulier, et ça dit quelque chose aussi du film, et de la vocation du père. Donc, c'est un moment suspendu qui nous est proposé dans ce film d'animation. Effectivement, pouvoir montrer ça à ces gamins, c'est tout à fait autre chose que le cinéma d'animation box-office. Ça n'a rien à voir. Quoi. Mais c'est une petite leçon de vie, quoi. Sans optimisme délirant, sans manichéisme, sans etc. Juste un moment dans ce jardin où se bâtit ce bateau, quoi.
Allez voir Slocum et moi au navire, et bientôt il sera à Privas. Avant de parler du festival Un livre et un film, tu voulais parler, Julien, de redire un mot du film Bird dont on a déjà parlé, mais
oui,
on t'écoute.
Ouais. Très, très rapidement, Bird, on va le jouer mardi soir à Tueil, donc un peu en retard, mais nous, voilà, si vous n'avez pas vu ce film, c'est surtout pour dire ça, allez le voir, parce que pour moi, c'est un des plus beaux films de l'année passée qui est sorti, enfin, ou du début d'année, là, je ne sais plus la date de sortie, mais en tout cas, voilà.
Très, très
et,
fort.
Et c'est un film qui va vous parler, enfin là on parlait de films sociaux, on va dire, on était à Marseille-Lestac, là on est vraiment à un autre endroit, on est en Angleterre, donc ça fait partie des films, on va dire, qui parlent de la société anglaise et en particulier des plus démunis. Et là, on est, et ça, c'est un film aussi qui parle beaucoup d'amour et d'amour paternel, filial. Il y a beaucoup de choses dans le film, et à la fois il y a de la poésie également, un poil de fantastique, d'imagination, du cinéma, beaucoup, C'est André Arnold. André Arnold, vous la connaissez peut-être. Elle a fait aussi American Honey. Elle a fait beaucoup de voilà. Qui, et à chaque fois, ces films. Moi, je suis assez fan en fait d'André Arnold. Je tiens à le dire. À la fois, elle a un cinéma vraiment atypique, particulier, qui pour moi fonctionne très très bien avec un impact à chaque fois. Voilà, on se prend une petite claque. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce film-là. Là, il y a pas tant de cinémas qui sont aussi inventifs, je trouve, que elle est pertinente sur on va dire la société anglaise et puis des plus pauvres. Elle s'est attaquée aussi aux plus pauvres aux États-Unis, donc American Honey, je parlais. Et à chaque fois, petit bonus pour ceux qui aiment la musique contemporaine, le rap, tout le foisonnement actuel de musique, il y a toujours des bandes originales super. Ouais. On découvre plein de choses. Moi, à chaque fois que je ressors d'un film d'André Arnold, j'ai toujours un ou deux morceaux que je me dis waouh.
Ouais. Mais tu disais, ouais, Bird, ça secoue quand même.
Mais le film secoue parce qu'il parle pas de sujets faciles. Hein, il parle aussi, c'est des gamins, voilà, c'est des enfants. Voilà, il y a une jeune fille de 12 ans qui est confrontée à la misère, à la drogue, tout ça, etc., qui essaie de s'en sortir. Et ça montre comment, la résilience, comment on arrive à s'en sortir, etc. Et comment l'amour peut dépasser quand même pas mal de choses et l'aide venir quand même malgré tout, malgré les difficultés, la misère, etc. Et la solidarité, comment elle peut être encore présente et forte, ça c'est beau.
Bird d'Andrea Arnold. Alors, le festival Un livre, un film qui commence ce soir avec Jane Austen a gâché ma vie. La semaine dernière, Cathy était venue parler de ce festival, mais c'est toujours intéressant de réentendre parler de.
Alors, voilà, moi je vais pas reparler dans le détail de tous les films, hein, forcément, mais simplement pour rappeler, Jane Austen, il était aux Rencontres, donc on en a déjà parlé plusieurs fois, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est un film qui parle d'écriture, de livres, mais ce n'est pas une adaptation, mais du coup c'est l'ouverture, on va dire, donc c'était intéressant de le proposer, pour parler justement, être le prétexte à parler livres et films. Le roman de Jim, alors là, c'est l'adaptation de Pierrick Bailly. Alors là, la particularité de ce film, c'est les frères Larrieux qu'on connaît, hein, qui ont fait Tralala, qui ont fait voilà. L'univers des frères Larrieux, c'est vraiment des films qui sont faits en plus, on va dire en province. Hein, c'est justement des réalisateurs un peu étiquetés provinciaux parce qu'ils tournent tout là-bas.
En France, juste pas à Paris. Quoi.
Pas à Paris, voilà. Il y en a pas tant que ça. Hein, il y a Guy Roddy, il y a Guédiguian dont on parle, il y a eux. Après, il faut les chercher
Après, il y en a de plus en plus.
Il y en a de plus en plus, mais en tout cas, historiquement, on va dire historiquement, depuis 20 ans, c'est eux qui creusent un peu ce sillon-là et qui y tiennent beaucoup. Et là, la particularité, c'est que c'est l'écrivain du film qui a directement contacté les réalisateurs, les frères Larrieux, pour leur proposer le livre. Donc, ce qui est assez rare, parce qu'en général, il dit, ça, c'est vous qui devez le réaliser, vous êtes. Donc, du coup, on est en face d'une espèce de, d'osmose assez parfaite en termes de c'est l'écrivain qui choisit ses réalisateurs. Donc, c'était intéressant de le proposer. Edmond, là aussi, c'est une histoire qui est quand même. Je parle beaucoup de livres, là, du coup, pour pas trop parler des films, mais Edmond, Alexis Michalik, pardon, parce que c'est pas Frédéric Michalak, le joueur de rugby, hein, je tiens. Donc, lui, il est issu du théâtre, il avait le projet de se faire un film, finalement, il a vu Shakespeare in Love, je sais pas si. Mm-hmm. Voilà, qui était une adaptation, justement, de la création de Roméo et Juliette par Shakespeare, enfin, voilà, si vous avez vu ce film. Et du coup, il a voulu faire pareil, mais il a commencé par une pièce de théâtre parce qu'il a vu qu'il y avait une adaptation. Il a essayé en projet quand il a vu le film, après, une adaptation au théâtre, justement, de Shakespeare in Love. Et donc, du coup, il est parti là-dessus. Donc, il a eu un succès fou avec sa pièce de théâtre qu'il a adaptée après au cinéma. Et là, on est, on est un peu dans la boucle. C'est-à-dire que, en gros.
C'est fascinant, c'est billard à deux bandes, trois bandes.
On suit l'auteur. de la pièce de théâtre au cinéma. Ben voilà, il y a une espèce de chose qui est créée comme ça. Et
en plus, Cyrano de Bergerac, c'est une pièce de théâtre qui porte en particulier sur la question de l'écriture, parce qu'il y en a un qui écrit les lettres de l'autre.
Tout à fait. Et bon, il y a Olivier Gourmet dedans qui est formidable, le rôle titre aussi, Thomas Olivérès. Enfin voilà, c'est vraiment. Et là, on se marre, c'est épique, il y a plein de choses, c'est vraiment très bien.
Et c'est donc à voir à 20h30 voilà. Samedi, demain.
Voilà, et puis après je ne vais pas reparler du Nom de la Rose que tout le monde connaît. Ni,
ce sera en clôture du festival à 16h30 dimanche.
Et pour le jeune public, amis de la poésie, venez faire découvrir à vos petits, tout petits, ce À nous le monde, donc qui sera proposé. Voilà, il y aura une animation après, la librairie du tiers-temps sera avec nous, voilà, pour proposer ses livres. Il y aura, voilà, il y a plein, et à chaque fois on va accompagner d'un petit débat, voilà, on pourra manger sur place le samedi, voilà.
Super, en tout cas très chouette initiative. Donc le festival Un livre, un film qui commence ce soir à 20h30 avec Jane Austen a gâché ma vie et qui se poursuit jusqu'à dimanche avec Le Nom de la Rose donc en clôture. Il nous reste 5 minutes pour parler des deux autres films, mais voilà, je pense que c'est suffisant.
Oui, jouer avec le feu. Donc avec Vincent Lindon, c'est un film pour Vincent Lindon.
De Delphine et Muriel Coulin.
C'est ça, du collectif 50-50 pour la parité homme-femme dans la société. C'est un film, j'en ai parlé avec Didier, notre camarade Didier, à qui j'avais dit, j'ai trouvé que l'histoire, je lis mon message, hein, j'ai trouvé que l'histoire perdait en intensité à cause de la longueur des plans. Et il m'a répondu, comme on voit que le film se fait dans le regard du spectateur aussi, il me dit « Moi, c'est plutôt le contraire. Ça inscrit le film comme une œuvre sociale, politique et familiale plutôt que comme un polar thriller, ce qui me paraît correspondre aux intentions de réalisatrice. » Ce qui est vrai, parce que j'ai entendu les réalisatrices sur France Culture, elles disaient exactement ça. C'est un film qui dénonce l'extrême droite violente dans nos sociétés européennes et éventuellement américaines du Nord et du Sud qu'ont fait l'Argentine.
Juste donc, un mot sur l'histoire, peut-être.
Alors, c'est un veuf, Vincent Lindon, qui a deux garçons. Un qui tourne super bien, selon les canons qu'on évoquait tout à l'heure avec Didier Guian. Un qui tourne super bien et un qui tourne super mal. Alors, moi, j'ai un problème avec ce film parce que j'écoute Didier et je dis, bon, bah, effectivement, c'est pas un thriller, c'est pas un polar, donc il mérite d'être allongé, il mérite d'être ralenti pour faire rentrer un propos. Le problème, c'est que le propos, je le trouve insupportablement didactique. On a droit à une leçon de psychosociété de la part de Vincent Lindon. À la fin, ça dure des plombes pour entendre des choses qu'on a déjà entendues 100 fois, et on le sait. Donc cet expressionnisme long et lent du film, si vous voulez, il porte quoi comme message? Il porte un message qui est faux, c'est-à-dire que, largement faux. C'est assez intéressant, parce qu'il se trouve que c'est tourné en Lorraine, hein. Je suis lorrain, je me revendique. Ah. Oui, oui. Et alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas où on est. C'est-à-dire que...
Ne faites plus de films en Lorraine quand Olivier est là à Cinémascope. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas.
Non, mais c'est...
Ou alors, il faut que Olivier choisisse les réalisateurs lui-même, comme Pierre Bailly l'a fait pour le roman de Jim.
Non, il faut que je réalise moi-même la nuance. Aussi. Non, mais c'est vrai, j'en parlais avec Sylvain hors antenne avant que l'émission commence. Ça fait 40 ans qu'en Lorraine, on a fermé les dernières usines et les dernières mines, si vous voulez. Bon poids, 40 ans. Et on continue à filmer la Lorraine, que ce soit et nos enfants après nous, là, ou que ce soit, voilà, ou que ce soit ici, jouer avec le feu. On nous filme la Lorraine d'il y a 40 ans. C'est-à-dire, on oublie que Metz, par exemple, c'est une ville qui est à la pointe de l'écologie, des technologies avancées, à la pointe de l'art contemporain avec le Centre Pompidou-Metz. Enfin bon, je dis, à un moment donné, il faut arrêter, hein. Et alors, je tiens à dire que il est assez curieux de voir comment un message faux du point de vue philosophique se donne un arrière-fond faux du point de vue objectif. C'est-à-dire, on se demande où on est. Le gamin, ils sont supporters du FC Metz.
Vincent Lindon explique à ses enfants qui sont pris de xénophobie, enfin surtout un, que tu comprends, nous on a été français, puis allemand, puis de nouveau français, puis de nouveau allemand, etc. Bon, bah, ils sont supporters du FC Metz, il fait ses études au lycée Faber, bon très bien, nous sommes à Metz. Et puis on apprend dans le film que le gars, ils sont de Villerupt, c'est-à-dire en Meurthe-et-Moselle. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Et si le gars, il a fait des études de prépa lettres à Metz, il n'a pas pu les faire à Faber, puisque c'est des prépas scientifiques. Les prépas lettres, elles sont à Georges Latour. Donc, si vous voulez, le problème, c'est on se dit, mais comment est-ce qu'on peut aller tourner un film en Moselle et en Meurthe-et-Moselle et dire des choses aussi objectivement fausse. C'est-à-dire, tu dis à un Meurthe-et-Mosellan, vous avez été allemand, puis français, il te regarde comme si tu avais picolé, quoi.
En gros, c'est un film de fiction, pas assez documentaire.
C'est un film documentaire, pas assez de fiction, plutôt. Oui. ou alors, il y a une fiction idéologique qui consiste à mettre le fascisme du côté des ouvriers, des mecs et des germano-sympathisants. Alors, le fascisme n'est pas exclusivement masculin, il n'est pas exclusivement prolétarien, et il n'est pas exclusivement germano-sympathisant.
En effet. Eh bien, il nous reste plus de temps pour parler d'un parfait inconnu, mais merci. Allez voir, pour vous faire une idée, jouer avec le feu, savoir si vous êtes plutôt du côté de Didier, qui n'est pas là, ou plutôt de l'avis d'Olivier. En tout cas, il est à voir au Navire et Priva cette semaine. Il sera bientôt à Valls, Auvence et Auteuil. On parlera d'un parfait inconnu, peut-être la semaine dernière, on en a déjà parlé un petit peu. Merci beaucoup à tous les deux pour cette émission. Merci à toi pour la réalisation, Sylvain. On se retrouve vendredi prochain pour sans doute Complete Unknown. Ciao.
Ciao.